Enregistrement du prochain Masque et la Plume.
Pardon ?
Oui, mais non.
Rendez-vous mercredi prochain à 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre. C'est l'heure de la bassige ici avec Daniel Mermet.
Oui, bonjour, les trois Suisses de Tourcoing, suivi de commandes. Ce petit message d'avertissement pour signaler à Monsieur Bernard Guetta que les treillis qu'il a commandés arriveront avec quelques jours de retard. Il lui faudra encore tenir le début de la semaine avec son ancien treillis de la guerre d'Afghanistan. Merci de votre fidélité, au revoir.
Bonjour Daniel, je m'appelle Sylvie, je vous avais appelé pour les manifestations pour l'égalité des droits les 15 et 16 décembre dernier. Malheureusement, le 13 janvier, la haine s'est déversée dans les rues, donc je reviens ici pour demander du soutien. Dans un mois, je serai la mère de ma première fille, pourtant je ne suis pas enceinte. Mais ce projet que nous avons avec ma compagne, Élise, depuis plus d'un an, j'en suis autant à l'origine qu'elle. Je souhaite que la loi puisse protéger ma fille de la même façon qu'elle protège tous les enfants nés dans des couples hétérosexuels. Pour l'instant, à sa naissance, ma fille n'aura légalement qu'un parent, alors que dans les faits, elle en aura deux. Si je décide de l'abandonner du jour au lendemain, je le peux. Si nous nous séparons, ma compagne peut décider que je ne reverrai plus jamais ma fille. La loi nous permet d'être des parents indignes.
Ouais, très intéressant l'émission d'hier. C'était vraiment très intéressant, notamment les deux gars qui sortaient de prison, là, l'état des lieux qu'ils aient des prisons françaises et les rapports qui s'y passent à l'intérieur. C'était assez édifiant sur l'état de notre société. En plus, c'est vrai que beaucoup de gens commencent par la boxe et finissent en prison. Et pour une fois, tu nous montres un gars qui commence par la prison et qui en sort grâce à la boxe. Allez, vive, apportez-vous bien une pensée pour les marcheurs qui vont de Nice à Nantes, ils sont sous la neige aujourd'hui. Vive.
Est-ce qu'on peut dire la prison? Est-ce qu'on peut dire le silence? Est-ce qu'on peut dire les larmes lentes et secrètes après l'extinction des feux? Est-ce qu'on peut dire l'amitié des voyous et des assassins, des voleurs? Est-ce qu'on peut dire la détresse, la fierté, la superbe des vieux caïds enfermés qui répètent inlassablement la litanie de leurs exploits passés, ou qui n'en parlent jamais? Est-ce qu'on peut dire l'attente et le temps? Est-ce qu'on peut dire le claquement quotidien des barres de fer sur les barreaux? Est-ce qu'on peut dire les femmes qu'on regarde du fourgon cellulaire et qui tordent le plexus de douceur, de douleur? Est-ce qu'on peut dire les revues porno « Je veux pas oublier comment s'est fait le sexe d'une femme » Est-ce qu'on peut dire l'humiliation de se masturber? Est-ce qu'on peut dire la terreur de l'absence progressive de désir, d'érection? Est-ce qu'on peut dire les avocates « Bonjour maître, elle a un sexe sous sa robe » Est-ce qu'on peut dire les durs qui reviennent du parloir brisés, éteints, silencieux, parce que leur femme ne viendra plus? Est-ce qu'on peut dire les portes des cellules qui retentissent la nuit sous les coups furieux d'un détenu affolé qui n'en peut plus? Est-ce qu'on peut dire les pendaisons? Est-ce qu'on peut dire « Il y en a un qui s'est accroché, il est mort en déchargeant » Est-ce qu'on peut dire les promenades? Est-ce qu'on peut dire les dimanches et les jours de fête? Pas de courrier, pas d'avocat, pas de parloir, rien. Est-ce qu'on peut dire les matons, la haine et la sympathie, le mépris, l'estime, la méfiance? Est-ce qu'on peut dire « Chef, ça va pas en ce moment, je deviens fou » Est-ce qu'on peut dire la mère chaleur et la chair de poule de ces misérables dialogues qui consolent le soir au moment de la fermeture des portes? Est-ce qu'on peut dire la saveur insipide de toute nourriture, y compris celle qui vient du colis annuel? Est-ce qu'on peut dire la prison? Des souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France de Pierre Goldman, édition de poche, 1977.
Gardons comme carton plein, trop plein de noms, considérations, d'absence de regard, d'échange verbal droit dans les yeux, direct et sans bavure. Gardons 30 ans de détention droit sous la férule administrative. Gardons condamné à perpète par les hommes. Gardons, il ne joue pas les martyrs, c'est juste un gamin qui a manqué de cadre. Gardons sur le ring, il en voudra encore de la vie. Salut mec, c'est Denis de Vendée.
La prison, c'est un système qui a été organisé par le droit. Et c'est le lieu de la négation du droit. En prison, on n'a aucun droit. La phrase qui m'a le plus marqué, c'est celle que lui a dite son entraîneur. Moins tu passeras de temps sur un ring, mieux tu te porteras. Je trouvais ça super. Alors il a dit, c'est vrai, on n'est pas des sacs, commentait Carnot, l'organisme, il n'est pas fait pour prendre des coups. Il n'est pas fait pour prendre des coups, mais il faut quand même aller sur le ring. Alors Charlotte Perry lui a demandé, mais les gens en prison, ils veulent apprendre à boxer, pourquoi? Et Lionel Carnot a répondu, parce que c'est valorisant. Pourquoi? Parce qu'un type cadré dans l'espace boxe, c'est un type qui apprend les règles. Autrement dit, alors si je réunis les deux, n'est-ce pas? Un type qui fait de la boxe, c'est bien parce qu'il apprend des règles. Mais en même temps, son entraîneur lui dit, moins tu passeras de temps sur un ring, moins tu te porteras. Si on réunit les deux, on en conclut quoi? Là où il y a des règles, on prend des coups. Et là, j'ai pensé à l'entretien de Zygmunt Bauman, qui mardi disait que finalement, la modernité, c'est quand les hommes se sont dit que pour s'opposer à la violence de la nature, il fallait qu'ils se gouvernent eux-mêmes et qu'ils fassent des lois. Eh bien, c'est pas trop réussi, quoi.
Voilà. Ça a cramé. À force de faire le con sur le répondeur, ça a cramé, j'ai pas surveillé, ça a cramé. Voilà, maintenant, je vais bouffer du truc cramé. Putain, mais c'est chiant, hein. Faire le con, là, ça t'apprendra à faire le con. Merde.
Et voilà. On laisse des messages sur répondeur et on fait tout cramer. Il y a des jours, vous êtes vraiment moyen. Bon, vous dire la vérité, hein, les messages que vous laissez sur le répondeur, on se regarde avec Marion, on dit bah dis donc, aujourd'hui ils sont moyens. Mais alors il y a des jours, vous êtes excellent et vous avez entendu, c'est le cas aujourd'hui. Bravo. Jamais les oreilles loin du front. Telle est la devise des AMG, des auditeurs de là-bas, si j'y suis. Qui vont passer un bon moment d'ici à 16h, comme chaque jour. Mais celui-là, il est un peu particulier parce qu'il s'agit d'un film. On va vous passer un film dans les oreilles jusqu'à 16h, ou du moins vous donner envie d'aller voir un film qui sort ce mercredi et qui s'intitule « Le grand retournement ». Un certain nombre d'entre vous, les plus malins, les plus futés, sont au courant, l'ont déjà même vu. Il y a ceux qui prétendent l'avoir vu et c'est pas vrai. Il y a ceux qui l'ont vu et qui s'en vantent pas. C'est un film de Gérard Mordilla avec pour sous-titre « Qui sème la misère récolte la colère » d'après une pièce en vers de Quidon de Frédéric Lordon. Un ami, un familier là-bas, j'y suis depuis des années. Frédéric Lordon nous éclaire de sa science financière en économiste hétérodoxe qu'il est. Et il lui est venu à l'idée de décrire une pièce en vers, d'un retournement à l'autre, sur la crise financière. Lordon a une idée fixe en tête, c'est de vous faire comprendre comment ça marche, vous faire prendre conscience de la mécanique, des mécanismes de la finance aujourd'hui dans le monde. Pas seulement pour couper quelques branches mortes et dénoncer quelques abus, mais bien tout le système. Il s'y emploie avec succès. Vous comprenez très souvent, vous êtes toujours heureux de l'entendre. Il n'est pas seul, il fait partie de ces économistes atterrés qui s'emploient à faire comprendre ça. Mais là, il voulait absolument trouver d'autres moyens, sortir des analyses critiques pour passer par les voies de l'émotion, du théâtre, d'autres moyens de perception. C'est la raison pour lesquelles il a écrit cette pièce, qui est jouée d'ailleurs, hein, qui est jouée au théâtre avec beaucoup de bonheur. Mais là, Mordilla, Gérard, est tombé sur ce texte et a eu envie de le porter à l'écran. Et le film sort, c'est une vraie merveille, c'est une prouesse, c'est un ovni, c'est une rareté, avec toute, comme on dit, une pléiade de vedettes, avec Jacques Weber, avec Édouard Baird, avec Franck de la Personne, Jacques Pater, Élie Truffaut, Antoine Bourseiller, Jean-Claude Barbin, Patrick Mille, Thibaut de Montalembert, Alain Pralon, Christine Murillo, Benjamin Van Guermet et Odile Conseil. Ils sont tous aussi excellents, mais vraiment, hein, les uns que les autres. Vous allez comprendre pourquoi je suis si flatteur un petit peu plus loin dans cette émission, mais c'est vraiment un bonheur et c'est un enchantement. Et on vous conseille vivement de vous faire le plaisir d'aller voir ce film donc, qui passera non loin de chez vous à partir de mercredi. Donc, on a beaucoup parlé de comédiens ces temps-ci avec Gérard Depardieu. On s'est laissé dire que les comédiens qui jouent dans ce film, vous avez vu, il y a des grandes signatures quand même, ont été payés à hauteur de 380 € par jour, ce qui est le tarif syndical minimum. C'est donc autre chose qui les a fait courir et qui vous fera courir aussi, j'en suis sûr, à partir d'après demain. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Armstrong est coupable parce qu'il a avoué. S'il était mort d'un cancer dû à l'utilisation de produits dopants, il aurait été une victime. C'est pas du bon sens, quoi.
Oui, salut à tous. Moi, j'aimerais bien répondre aux pecnophobes, là, qui considèrent que tous les agriculteurs sont des gros profiteurs et qui se gavent en ayant des gros tracteurs et en touchant les prime packs. Le problème, c'est que c'est vrai que c'est les plus gros bénéficiaires de la PAC, c'est le plus gros montant de PAC qui est versé, mais c'est pas la majorité des agriculteurs français. La majorité des agriculteurs français, ils se payent les miettes des PAC. Et eux, déjà, ils sont bien contents, les jeunes, quand ils s'installent, s'ils arrivent à trouver déjà quelques hectares pour commencer à bosser, et ça, des hectares sans prime, hein. Ou alors il faut qu'ils les achètent, les droits à prime unique, comme on dit. Alors, faudrait peut-être que le pecnophobe, il court un petit peu plus la campagne, et puis qu'il regarde la gueule des tracteurs qu'utilisent la majorité des jeunes. Hein. Alors, s'il habite Reims, Chartres, et dans ces coins, c'est sûr, des gros tracteurs, il doit en voir. Mais qu'il aille un petit peu dans le Limousin, qu'il aille un petit peu dans les coins un peu moins favorisés, il va en voir des agriculteurs qui crèvent leur race à essayer de bosser pour gagner 3 thunes.
Oui, bonjour Daniel, Dominique, je suis travailleur social à Toulouse. Hier, je me rends à la préfecture avec un jeune homme algérien pour obtenir un titre de séjour. Le document n'étant pas prêt, il lui est délivré un récépissé. Ce monsieur vient de déménager et présente le bail pour changer d'adresse. La guichetière me répond qu'elle ne peut faire le changement, car c'est bloqué informatiquement. La procédure. Je rétorque qu'il ne pourra pas faire jouer son droit à la location logement. Elle me dit, ces gens-là, ils ont bien assez de droits. Je lui coupe la parole en lui disant que ce discours nauséabond et raciste m'écorche les oreilles. Toujours sur Odel, elle me répond, soyez respectueux, monsieur. Entre Français, on se comprend. Non, je ne vous comprends pas. Cet épisode n'est pas singulier à la préfecture de Toulouse, où le devoir de réserve du fonctionnaire ne semble plus être un usage. Comment une institution publique peut-elle relayer des conditions d'indignité, d'accueil de ces personnes, tous les jours à Toulouse, dans un usage établi, la fraternité républicaine est piétinée. Je t'invite, Daniel, à venir constater, lors d'un reportage, cette indignité quotidienne.
Bonsoir à tous, on est très heureux de vous présenter ce festival donc Résonance Rencontre du cinéma citoyen dont c'est la 12e édition et dont l'invité d'honneur cette année est Gérard Mordillat. Voilà. Donc je vois que Gérard... Voilà.
Eh bien, bonsoir à tous. Donc vous allez voir ce soir le film adapté de la pièce de Frédéric Lordon, ici présent. Voilà, Frédéric Lordon. Bonne projection et à tout à l'heure.
Française, français, coucou, me revoilà.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chaoul. Grand retournement, comédie sérieuse sur la crise financière.
Flight number 2, arriving from New York.
Ah, François Morel, je suis content de vous recevoir, parce que, voilà, j'ai un petit souci. J'espère que vous allez m'aider.
Ouais, alors,
on n'enregistre pas, mais voilà, j'ai loué, enfin, je suis en train de louer une maison pour cet été au bord de la mer.
Et combien de pièces?
Ben voilà, c'est très grand.
Ah, c'est grand, ouais.
C'est très grand, c'est cher. Uh-huh. Je me demande si je vais pouvoir payer. Or, j'ai deux amis, enfin j'ai beaucoup d'amis, mais j'en ai deux que vous connaissez, qui sont, l'un c'est Gérard Mordillat.
Oui, je connais, oui.
Que vous connaissez, qui a réalisé le film Le Grand Retournement.
C'est ça.
Dans lequel on vous voit, ça, on va en parler après. Et puis Frédéric Lordon, qui est un ami aussi.
D'accord.
Voilà. Alors mon souci, c'est que ce que j'aimerais, c'est que le film de Mordillat marche bien, dans lequel vous jouez,
d'accord,
mais on va en parler après.
Oui.
Si le film marche, ce sera beaucoup plus facile.
De leur demander.
Voilà. Voilà. Alors, je vous ai invité.
Ah oui, mais ça, je comprends. Alors là, si je peux vous retirer une épine du pied,
voilà,
ça, c'est avec plaisir.
Je vous ai invité pour que vous disiez du bien du film.
Bah, c'est le film de la rentrée. C'est le grand film qu'il faut voir. Toutes affaires cessantes. Ça s'appelle Le Grand Retournement. Et c'est en alexandrin.
Voilà, vous n'avez pas autre chose de plus qui donne encore plus envie.
Alors, toute une pléiade de vedettes sont réunies. Jacques Weber, Édouard Baird, Catherine Deneuve...
Gérard de... Non.
Non, il n'y a pas Catherine Deneuve.
Il n'y a pas Catherine Deneuve, mais il y a Franck de la Personne,
oui,
par exemple.
Bah, c'est la même chose.
Bah, absolument. Il y a Jacques Pater, il y a Élie Trifaut,
qui fait
un Sarkozy tout à fait.
Ça vous a fait penser à Sarkozy ?
Il m'a fait penser à Sarkozy.
Ah, oui, oui.
Il y a un rapprochement possible.
Oui, oui, c'est vrai.
Et puis alors, il y a l'autre avec ses lunettes, c'est François Morel.
C'est ça, oui.
Qui fait un rôle de faux cul...
Hein, qui est inquiétant.
Bah ouais, parce que c'est tellement ressemblant qu'on se demande. Vous avez fait beaucoup de. C'est un rôle de composition.
J'espère.
Bon, alors on va essayer de vraiment leur donner envie d'y aller parce que moi je voudrais bien passer mes vacances tranquillement.
Bah oui, je comprends.
Alors. Comment ça s'est passé le... C'est Mordia, vous êtes copain avec Mordia, c'est ça? C'est une histoire de copinage?
Oui, absolument. j'avais fait son précédent film, qui était Les Vivants et les Morts, dans lequel je jouais le rôle d'un CFDTiste qui appelait à voter pour Le Pen à la fin. Une belle évolution de personnage. Mmh. Et bon, c'était drôlement bien entendu. J'adore ce type-là de Mordilla. Il a une énergie absolument magnifique. C'est à la fois le petit gars du 20e qui parle un peu comme ça et qui fait vraiment partie du monde populaire. En même temps, c'est un grand intellectuel qui a une analyse des choses magnifique. Donc, me retrouver avec lui, même si je fais moins de vélo que lui, même si je me lève plus tard que lui, parce que lui met son réveil à 6 heures pour écrire ses romans jusqu'à 9.
Et à 9, il fait du vélo.
À 9, il fait du vélo. À 11, il tourne un film. Et le soir, il participe à des émissions de France Culture. Enfin, c'est quelqu'un de pas mal.
Le grand retournement Mordilla, qui sort ce mercredi. Comment il vous a dirigé, le père Mordilla, Gérard Mordilla ?
Il fallait trouver un ton qui était à la limite de la parodie et de la vérité. En fait, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, essayer d'être crédible en larvaire absolu et puis dire quand même ses textes. Dans la forme, c'était important quoi, de pouvoir être juste dans la forme. Parler des relations entre la finance et la politique, mais à partir d'Alexandrin, c'est
et d'une façon très critique, hein, le texte de Lordon est évidemment particulièrement critique. C'est un démontage total de la scène économique. Et François Morel, vous vous rendez compte que c'est un film politique quand même?
Oui, je crois, oui.
Oui. Vous êtes d'accord avec...
Je ne suis pas contre.
Le fond politique du film.
Oh non, vous...
Oui, c'est ça. Il va me parler d'engagement politique et tout. Ça va dégrader mon image.
Dommage. je suis le type gentil du 9h-5 du vendredi. Écoutez, j'ai une image. Moi aussi, j'ai une famille à nourrir. Moi aussi, je compte partir en vacances cet été.
Bon... Je crois que là, c'est bon.
C'est bon.
Ils vont tout. Merci, François.
Merci.
Salut, merci.
Un bon gouvernement a besoin de sagesse. Au marché, il se doit de tenir ses promesses.
Demandez-vous donc pour qui vous gouvernez ?
À qui le politique a-t-il à s'adresser ? Est-ce à des créanciers ou à ses citoyens ? Où sont ses vrais devoirs ? À qui doit-il le bien ? À oublier le peuple et servir la finance ? Et du contrat social à faire d'échéance, vous ne gouvernez plus pour le corps citoyen et vous avez cessé d'être républicain.
Mais comment osez-vous ? Quelle abomination ! Comment porter sur nous de si graves soupçons ?
Merci de m'épargner vos fausses véhémences. Du politique même, vous altérez le sens. D'abord les créanciers, le peuple s'il en reste. Voilà en résumé la trahison funeste où vous êtes tombé. Terrible forfaiture qui des marchés aura permis la dictature. Au lieu des citoyens, c'est toujours la finance qui, immanquablement, a votre préférence.
Auditeurs, ô vous dont les oreilles sont si souvent bernées, par ces économistes complices des banquiers qui collent à la finance comme cul et chemise et vous font avaler qu'aujourd'hui c'est la crise, on ne peut rien y faire, il faut se résigner, pragmatisme, endettement, compétitivité, avec nos grands patrons soyons plus solidaires, ils se donnent tant de mal pour faire le bien sur terre, non ? Ces économistes perroquets, jargonnants, ne vous parleront pas du grand retournement. Le film de Mordilla, pour eux, c'est une baffe, une balle, une bombe, avec tout un panache. Les acteurs sont superbes, on rit tant que l'on peut. Vous connaissez l'auteur ? Il vient de chez vous, messieurs. C'est un économiste, un chercheur qui cherche, sauf que celui-ci, ce lordon, vend la mèche. À poil, il vous met. L'arbin des 1% qui ont tous les pouvoirs, ces requins arrogants, vous qui avez rendu tout cela illisible. Il n'y a pas d'alternative, c'est écrit dans la Bible. Attention à ce film où le peuple comprend ce que pourrait être un vrai grand retournement. À la fin, dans les cœurs, la révolte chemine. Jusqu'où et quand, messieurs, votre combine un beau soir de printemps vous pètera à la face. Vous ne gagnerez pas toujours cette lutte de classe. Vous nous direz alors, nous allons tous aider ces chômeurs, ces enfants, ces maigres ouvriers. Mais quelle est cette corde ? Dites ce que vous voulez. Que voulez-vous ? Nous ne voulons pas trop pleurer sur les victimes, mais pendre les bourreaux.
Grand retournement que tant vous redoutiez vous livre ses tourments. Vous voilà embarqués. La cohésion s'impose. Serrez vite les rangs avant que tout n'explose.
Pourriez-vous vous montrer un peu plus spécifique ?
Au Magic Cinéma, Résonance, les 12e rencontres du cinéma citoyen du 9 au 16 novembre 2012 à Bobigny. Dominique Babs, alors vous êtes directrice de ce cinéma, c'est ça ?
Oui, sur Bobigny, voilà, cinéma municipal, il faut le signaler, puisque dans la banlieue parisienne, la plupart des cinémas sont des cinémas municipaux, donc qui sont nés de la volonté des villes, à côté de quelques salles de grands circuits.
Et vous organisez ce festival, hein, Résonance ?
On organise ce festival Résonance depuis 12 ans, à la demande de la ville qui voulait une manifestation cinématographique qui parle des droits sociaux, de la démocratie, des combats pour la justice, et voilà.
Alors cette année, Gérard Mordilla est invité.
Gérard Mordilla est invité, c'est un ami, il est souvent venu ici. Et donc on trouvait bien à l'occasion de la sortie de son prochain film, de lui rendre hommage. Puis c'est aussi comme ce soir un moment de rencontre très détendue entre les acteurs, les réalisateurs, le public. Donc c'est vrai que pour nous c'est un lieu vivant.
C'est vrai, ouais, on le constate aujourd'hui.
On le voit, et puis ça n'empêche pas aussi qu'on boit bien, qu'on mange bien. C'est l'ancien critique gastronomique de l'humanité qui est maintenant cuisinier.
À domicile.
Oui.
Ouais, donc on joint l'utile à l'agréable.
La défiance est très grande, les marchés dégringolent et nos taux d'intérêt soudainement s'affolent. Je vois monter le coût de nos fonds empruntés et le cercle vicieux s'auto-alimenter. Plus notre dette monte, plus les marchés s'inquiètent et plus cher ils nous prêtent, plus cher nous leur payons, plus nos dépenses se croisent, de sorte qu'à la fin, les déficits s'entassent.
Le système est pervers, suprême perfidie, la dette gonfle encore et sans cesse grossit.
Mais comment pouvons-nous sortir de cette nasse ?
Il faut tuer ce système, l'envoyer à la casse.
Bon, on n'est pas là pour rigoler, hein.
Non.
On est dans un lieu
tout à fait notre genre.
C'est une soirée culturelle, hein.
C'est culturel.
C'est la soirée culturelle du samedi.
Oui.
Voilà. La culture est en marche.
Oui.
Voilà. Et d'ailleurs, vous êtes tous venus évangéliser les pauvres, les ouvriers, les prolétaires.
Oh bah surtout Mordilla.
C'est le truc de Mordilla, parce que tout le monde a suivi Mordilla.
Oui.
Bien obligé.
Oui.
C'est quand même lui le réalisateur du truc. Gérard, justifie-toi.
Bien, c'est très simple. Je leur ai dit « venez » et ils sont venus. Et cette chose, d'ailleurs, a été exactement la reproduction de ce qui a permis de faire le film. J'ai dit à ces acteurs « venez, on va tourner la pièce de Frédéric Lordon, on va en faire un film, il faut que vous veniez ». Eh bien, ils sont tous venus et il n'y a pas eu de défection. Alors ça, c'est bien.
Qu'est-ce qui a demandé, mais qui c'est ce Frédéric Lordon ?
La plupart.
Tout le monde, tout le monde.
Mais qui c'est ce Lordon ?
Je suis mortifié.
Oui. Non, c'est sûr que Frédéric Lordon, qui pouvait être connu comme économiste, l'était moins comme auteur dramatique. Or, les acteurs sont plutôt penchés sur les auteurs dramatiques que sur l'économie. Mais ça leur a fait beaucoup de bien de découvrir ça.
Moi, ce que j'ai lu dans la présentation alors du film, parce que c'est d'abord un texte, une pièce de théâtre, et maintenant c'est un film, c'était que c'était à la fois Racine, Molière et Voltaire.
Oui, c'est trois pour le prix d'un, c'est la Sainte Trinité, voilà. Non, pourquoi c'est ça ? Bah parce que, évidemment, la première qualité de ce texte, c'est son humour. Donc, Molière.
Molière.
Voilà. Ensuite, ça parle d'une chose dramatique, la situation financière et bancaire. Donc, Racine.
Et ensuite... Racine s'occupait d'économie.
Ah bah oui.
C'est les racines du mal.
Ça, c'est le côté humoristique du film, oui.
Voilà, oui.
Ça, on va l'enlever au montage.
On va pas s'emmerder. Et puis, troisièmement, Voltaire, pourquoi ? Eh bien, parce que, bien entendu, il y a là une ironie agressive... qui est de l'ordre de la pensée de Voltaire, qui était justement celui capable de combattre sur tous les terrains sans se soucier de sa propre personne, combattant aussi bien la religion, la monarchie, la bourgeoisie, etc. Et bien voilà, donc on a les trois, Molière, Racine et Voltaire, et même en prime Frédéric Lordon.
Voilà, et le voilà, il est devant nous.
Donc d'abord, en fait, dans des circonstances assez prosaïques et même domestiques, il m'est venu deux alexandrins, puis deux autres, alors je les ai écrits, j'ai trouvé ça drôle. Enfin, je comprends, je m'amuse d'un rien. Hein. Voilà. J'ai continué, j'ai pris un papier, un crayon. Il y en a une dizaine qui me sont venues. Et là, je me suis dit, tiens, peut-être il y a quelque chose.
Et c'était quoi comme alexandrin ? Parce que c'était ça décrivait un paysage,
non,
nuit d'amour, un tour en vélo.
Voilà, c'est ça, mais un tour en vélo de la crise financière. C'est les premiers du texte de la pièce, là, tels qu'ils sont.
Oh là, ma bonne amie, je vous entends courir.
Quelle bonne nouvelle, venez-vous me servir ? J'apprécie à son prix votre haut dévouement. Parlez donc, parlez vite, n'attendez plus longtemps.
Monsieur...
Oui, quoi ?
Il se...
Plaît-il ?
Il se retourne.
Qui ça se retourne ?
Le mama.
Le ma quoi ?
Le marché.
Vous n'êtes pas sérieuse. Ceci est impossible.
C'est que, monsieur, la modernité...
Quoi, la modernité ?
L'innovation financière !
Et qu'a-t-elle donc ?
Ces produits structurés sont bien trop compliqués. Plus personne ne sait comment les évaluer.
Nous avons pourtant su profiter des profits. Sommes-nous incapables de connaître les prix ?
C'était ceux du marché, mais il est effondré ! Plus une transaction, plus un prix qui s'annonce. Nous savons tous nos comptes menacés de carnage, mais sans un prix qui vaille, nageons dans le potage.
Le texte de Frédéric permet deux choses. D'une part, il permet de comprendre très clairement les mécanismes financiers. Alors ça, formidable, bravo. Mais deuxièmement, il permet de comprendre que chacun d'entre nous est tout à fait capable de les comprendre, que ce n'est pas du tout un domaine qui serait réservé à une élite économique ou politique qui, elle seule, détiendrait la vérité, qui est la vérité révélée du néolibéralisme, qui, voilà, la fameuse phrase de Margaret Thatcher, « Il n'y a que... la société n'existe pas, il n'y a que l'individu et sa famille ». Donc c'est ça le néolibéralisme, c'est de dire, voilà, défendons nos propres intérêts et nos intérêts individuels contre tous les autres, et nous avons raison. Eh bien, ce que fait Frédéric Lordon, c'est de nous permettre de comprendre
comprendre ces mécanismes internes à la finance et à la banque, et ça, on les comprend à la perfection, mais moi, je trouve encore plus important, on comprend qu'on peut comprendre et qu'on doit comprendre et qu'on peut s'exprimer sur ces questions. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extrêmement politique dans cette pièce.
Monsieur le Président, malgré toute leur rudesse, ces mots n'en sont pas moins d'une grande justesse.
L'État doit se reprendre, il doit se réformer. La situation est grave, elle peut basculer.
Les marchés sont inquiets.
De votre dette, ils redoutent l'emballement.
Ils craignent de vous voir devenir insolvable et que votre défaut, autrefois improbable,
détruise ce qu'en vous, ils avaient de confiance.
Or, que font les marchés en telles circonstances?
Ayant peur du défaut, le marché récalcitre et délaisse vos risques et bazarde vos titres, la défiance s'élève et vos taux d'intérêt. De là, le poids accru que prennent tous vos prêts.
Déjà préoccupant votre problème en pire.
Je voudrais juste ajouter un mot, c'est pas pour couper les cheveux en quatre, mais ces gens-là ne sont pas corrompus. Hein. Faut résister aux logiques fédiversières et criminologiques de la crise ou des analyses de la crise. Hein. Il n'y a pas besoin de l'hypothèse de la corruption, de la vilainie, de la prévarication ou de la présence diffuse du mal. Voyez, c'est ça la chose sur laquelle il faut insister, hein. Avec ce message implicite que si le crapule n'avait pas été là, tout se serait bien passé. Les crises financières arrivent même quand le jeu est joué impeccablement en suivant toutes ses règles. Et c'est la raison pour laquelle l'attention doit être portée sur ce qu'il mérite vraiment, à savoir les logiques fondamentales du système lui-même. Donc c'est vrai que maintenant, il y a des affaires de corruption qui sortent de partout, si vous voulez. C'est comme champignons après la pluie. Donc c'est un peu... Je rame à contre-courant hein, quand j'essaye de dire ça. Mais il faut résister à l'idée que ce serait ça, l'explication en dernière analyse de la crise. C'est pas ça. C'est vraiment c'est des logiques impersonnelles de système qui emportent avec une force irrésistible tous les agents. Tout simplement parce que leurs intérêts sont configurés de telle manière que ces agents les poursuivants tous vont à la catastrophe dans le même mouvement. Traders et patrons ne font jamais que jouer le jeu tel qu'on le leur a aménagé. Si vous aménagez un terrain avec des poteaux, etc., et les règles du jeu de rugby, il ne faut pas s'étonner que 15 bons hommes mis face à 15 autres se foutent sur la gueule, parce que c'est inscrit dans la règle, vous comprenez? Et donc c'est pareil avec la finance. Les agents ne se comportent jamais que comme les structures dans lesquelles ils sont plongés les déterminent à se comporter. Si vous voulez qu'ils se comportent autrement, il faut refaire le terrain de jeu. C'est pour ça, hein. C'est pas des affaires... vous savez bien d'ailleurs que tous les discours d'émanation patronale ou libérale sur la crise financière plaident pour la régulation par la morale et par la vertu. Hein. Si la vertu permettait de réguler quoi que ce soit, vous croyez pas que ça se saurait depuis un moment déjà? Bon, et c'est la ritournelle qui nous est servie à chaque crise de la finance libéralisée. Donc c'est pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est fermer le terrain de jeu et jeter la clé à la rivière. C'est une toute autre logique.
Française, français, coucou, me revoilà.
Ah ben non, je me tourne vers les comédiens. Il y en a trois, là. Tout ce qu'on vient de dire là, sur vos frêles épaules, c'est quand même un peu pesant.
Non, mais c'est évident qu'on est plus proche de la littérature que de la politique.
Et de l'économie, oui.
Donc, Élie Triffaut qui joue le rôle du président de la République.
Et comment?
Frédéric a pris beaucoup de plaisir, je pense, à écrire cette pièce en alexandrin. Nous, je crois qu'on a au moins essayé ou réussi à prendre beaucoup de plaisir à les dire, à travailler là-dessus, à savoir comment on allait faire un petit peu au milieu des coupes et du retravail qu'on a fait.
Je ne te voyais pas au naturel quand je suis entré ici. Je me suis dit, où il est le mec qui fait Sarkozy?
Mais justement, il ne fallait pas que ce soit... Moi, je crois que la grande force de la pièce, et d'ailleurs, c'était une discussion que j'avais avec Vera Belmont, qui est la productrice du film. Vera voulait que je date, que je mette des dates. Et moi, j'étais absolument contre, étant persuadé que les personnages qui sont là en jeu sont des archétypes et que la critique serait d'autant plus féroce qu'on aurait un gouvernement de gauche qui défendrait des idées, elles aussi néolibérales. Et je pense que ça fonctionne vraiment comme ça et que ce qui était important pour les acteurs, c'est que ces archétypes, il fallait qu'ils deviennent des personnages. Et donc chacun d'entre eux deviennent quelque chose qui n'était pas absolument écrit dans le texte. Il n'y a pas de didascalie, il n'y a pas de choses. Donc il fallait que ça vienne vers eux.
Vous avez retravaillé pendant le tournage?
Au départ, j'avais
fait... T'as pas réécrit du Lordon, t'as pas retouché à des textes de Lordon. Gérard,
il l'a fait.
J'avais écrit une adaptation pour évidemment répartir la parole entre les uns et les autres. Et puis ensuite, on a expérimenté ça. Alors, il était important que chaque acteur prenne pour soi le texte, le fasse passer dans ses moelles et le rende aussi facilement jouable, qui a amené naturellement un certain nombre de modifications. Et puis, il fallait aussi tenir compte de ce que je voulais mettre en scène. Par exemple, une des tirades du président de la République qui a été transformée en message à la nation, il manquait une rime en « a ». Et donc on a trouvé, en travaillant ensemble, cette rime formidable qui était « Française, français, coucou, me revoilà ». Alors, ce n'est pas de Frédéric Lordon au départ, mais maintenant...
Je me disais aussi, ça, c'est pas du Lordon.
Oui, mais maintenant, pour l'éternité, c'est du vrai Lordon. Et voilà, et c'est exactement... Et je vais donner comment on a travaillé et quelles sont les perspectives. Par exemple, pour le président de la République, j'ai dit à Élie Trifaut, il faut penser à Hamlet. C'est un enfant, pas qu'on puisse savoir si c'est un enfant idiot ou si c'est le plus malin de tous. La perspective était celle-là. C'était pas d'imiter tel ou tel homme politique contemporain. C'était de faire entrer cette chose qu'on pouvait lire dans le texte, cette ambiguïté du président. Est-ce qu'il est stupide ou au contraire, est-ce qu'il est tellement rusé qu'il joue ça? Donc ça, c'était ça. Par exemple, quand j'ai discuté avec Franck de la Personne, qui joue un autre banquier, je lui ai dit, écoute, ce qui serait bien, c'est de donner une dimension ecclésiastique, puisque tu vas être celui qui va défendre la moralisation du capitalisme, etc. Joue ça comme un ecclésiastique.
Ah, dans le genre curé onctueux, il est parfait.
Voilà, il est parfait. Benjamin Vangermet, qui fait le premier, deuxième conseiller, qui devait donc suivre sans arrêt François Morel, qui est d'une obsidiosité totale en tant que premier conseiller. Benjamin, on discutait comment. Je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Tu as un modèle, c'est un écureuil fou. Dans les dessins animés, hein, l'écureuil fou qui court partout, etc. Je lui ai dit, tu me fais l'écureuil fou. Il a fait l'écureuil fou. Et donc, là aussi, on a un peu modifié le texte dans différents endroits pour que cet écureuil fou ait les mots nécessaires à jouer son rôle. De la même façon que l'ecclésiastique a eu aussi toutes les répliques qui lui permettaient d'amener ça. Bon, je pourrais dire, Jacques Pater devait jouer le banquier qui était toujours amical, toujours souriant, toujours d'accord avec le président, sans être flagorneur, comme le personnage que joue François Morel. Et au contraire, Jacques Weber, c'était la statue du commandeur. Donc voilà, on avait des références théâtrales, c'était ça. Mais c'était surtout pour que les rôles s'incarnent chez les acteurs et qu'ils deviennent des personnages qu'on pourrait rencontrer justement dans les banques ou au ministère.
Convaincu, nous avons tous ici le même point de vue de l'abondant concours de la Banque centrale qui n'aurait le souci de l'usage optimal. Quant à moi, je sais bien ce que je dois en faire et j'incline à penser que le plus salutaire est encore à la bourse de l'aller investir plutôt qu'en l'industrie de le laisser croupir. La croissance flappy, c'est sans doute fâcheux, mais à la vérité, qui pouvons-nous, messieurs ?
Le plus cocasse étant que, faisant tous pareil, la bourse est requinquée par l'afflux de l'oseille. Il nous faut savoir gré à la Banque centrale. De la liquidité, le flot phénoménal injecté au marché est une adrénaline. On ne pouvait rêver meilleure médecine.
Ajoutez à ceci la quasi-gratuité des fonds que nous pouvons à gogo emprunter. Les marges sont somptueuses, les encours épatants. Jamais profit ne fit retour si promptement.
Puis-je vous dire un mot, vraiment en confidence ? J'ai accru mes bonus, nous refaisons bombance.
Nous l'avons mérité après tant de tourments de vous à moi. Messieurs, je vais en faire autant. Mes traders me menacent de prendre les scampettes si je n'élève pas leur cachet de starlette. Nous célébrons discrètement ce... retour au grandiose.
Le peuple qui est sot n'entend rien à ces choses. Il ne peut pas comprendre que la concurrence s'arrache les traders, nous vole l'excellence, et que pour les garder, il nous faut constamment les choyer, les gaver, les payer grassement.
«
C'est la crise, la bourse dégringole, les banques sont au bord de la faillite, le crédit est mort, l'économie se meurt. Pour sauver leur mise, les banquiers font appel à l'État. L'État haït et soudain le sauveur. Les citoyens paieront pour que le système perdure, que les riches restent riches et les pauvres reste pauvre. Goldman Sachs vient de publier ses résultats, c'est tout à fait formidable. 100 millions de dollars de bonus pour les 12 membres de l'équipe dirigeante de cette banque. Le PDG du groupe Lloyd Blomfein s'est pris pour ce qui le concerne 13 millions de dollars pour cette année. La banque a doublé son bénéfice en 2012, 7,3 milliards de dollars, ce qui n'est rien à côté de JP Morgan qui a fait pour cette année 21 milliards de dollars. Il y a quelques années, ces banques étaient au bord de la faillite et nous les avons renflouées grâce au concours de nos États. Nous sommes passés d'une dette privée à une dette publique. Bon spectacle.
J'ai pris le parti de l'Alexandrin, mais comme un exercice de style. C'est comme une pochade. C'est-à-dire qu'il me protégeait de toute prétention littéraire. Les Alexandrins, les potages d'il y a quelques générations, en écrivaient, quoi.
Mordia.
Ouais, je pense que, écoutant Frédéric Lordon, je pense à un roman de Marcel Aimé qui s'appelle Uranus, où le patron du bistrot qui a accueilli dans son café la classe qui ne peut plus avoir lieu puisque c'est juste après la guerre, tout est détruit. Donc on a fait classe dans le bistrot et d'un seul coup, le patron prononce une phrase en alexandrin. Il reste stupéfait et va passer tout le reste du livre à essayer de trouver le deuxième. Là, Frédéric...
Il a trouvé le deuxième.
Mais voilà, donc c'est Marcel Aimé faisant un pas de plus. Et ça, c'est formidable. Parce que nous sommes dans une classe, il est le patron de bistrot qui nous parle en alexandrin. Et moi, je crois que justement, l'alexandrin a énormément d'avantages parce que c'est une langue qui à la fois nous est familière et étrangère. Donc au début, on est toujours stupéfait de l'entendre. On se dit, tiens, mais il parle comment, celui-là ? On comprend que c'est du français, mais il y a quelque chose d'un peu trouble. Donc ça force l'écoute, ça force l'audition. Et au bout d'un moment... Cette audition ne faiblit pas. Au contraire, on est tout le temps en alerte. D'abord parce que c'est une musicalité de la langue, mais aussi parce qu'il faut être très attentif à chaque mot prononcé. Et donc, très bien, c'était une très très bonne intuition de patron de bistrot de nous faire un cours d'économie extraordinaire en alexandrin.
Oui, enfin, il faut dire que les comédiens dans le film sont particulièrement bons. On va parler avec eux. Vous allez dire à quel point Mordia est un bon directeur d'acteur, etc. Vous allez vous flatter les uns les autres. N'empêche que... mais je vais quand même rester sur Frédéric Lordon. C'est cette révolution conservatrice... Hein, qui a une trentaine d'années, mettons. Elle doit sa réussite à ce qu'elle est passée par l'économie, par la financiarisation et par la langue de la finance, que tu es un des rares parmi nous, encore une fois, j'y insiste, à connaître. Et sans doute que cette réussite formidable est dans ce fait de maîtriser ce langage. Et t'essayes depuis des années, avec un certain succès, à vulgariser, en fait, à vendre la mèche. Tu fais partie, mais enfin, vous n'êtes pas très nombreux, il faut bien dire les choses, à essayer de vendre la mèche. À chaque fois qu'on fait des émissions ensemble, qu'on te présente, on dit l'économiste hétérodoxe. Et là, ça t'a pas suffi, c'est-à-dire que tu as essayé de passer encore par d'autres moyens, d'autres chemins, pour faire comprendre, alors non pas de façon prosaïque, puisque c'est des vers, ce que t'as compris sur cette énorme manipulation.
Je voudrais pas plomber l'ambiance, mais il y a évidemment un truc...
Je dis pas que j'ai tort, je viens de faire une question qui est vachement bien et qui fait au moins 3 minutes.
Je veux dire que c'est de la question tournée à l'ancienne, à la machine-outil, c'est un petit bijou. Justement, j'allais dans ton sens. Ce que je veux dire, il y a une part de rigolade dans cette pièce, mais sans vouloir plomber l'ambiance, il y a aussi un peu une part de désespoir. Parce que l'idée, quand même, c'est qu'on a sur les Andos cette crise qui est hors du commun... depuis maintenant 5 ans. Et c'est une crise dont le spectacle, par soi, aurait dû suffire à envoyer l'évangile néolibéral aux poubelles de l'histoire. Et non seulement ça n'est pas le cas, mais comme tu sais, le néolibéralisme fait mieux que le phénix. Il n'a même pas eu à mourir pour renaître de ses cendres. Mais donc non seulement le néolibéralisme n'a pas été complètement disqualifié, mais chaque année il s'approfondit davantage. Et donc la question c'est celle des moyens à utiliser pour en finir avec cette carne. Et visiblement, les seuls moyens de l'analyse critique ne suffisent pas, ou ne suffisent plus. Enfin, je ne sais pas s'ils ont jamais suffi d'ailleurs. Hein. Alors les économistes hétérodoxes, les économistes atterrés, etc., se cassent le trognon à écrire texte sur texte, à faire réunion publique sur réunion publique, à faire des livres, etc., pour opposer un contre-discours au sirop dont les médias nous recouvrent. Mais ça n'est pas suffisant. Et même le spectacle de la crise en technicolore ne parvient pas à disqualifier cette construction. Alors, l'idée qui m'est venue, c'est que mon viatique pour l'époque, en quelque sorte, ma maxime viatique, c'est faire feu de tout bois. Tout est bon pour essayer de lutter contre ce truc. Et plus seulement les moyens du discours critique, mais également toutes les formes alternatives recourant à d'autres médiums expressifs. Alors, la BD, le documentaire, le cinéma, les arts plastiques s'y mettent aussi. Tous les secteurs de l'art rentrent les uns après les autres dans ce contre-discours sur la crise. Et voilà, passer par le théâtre était une idée comme une autre. Et prolonger le théâtre par sa mise à l'écran, alors c'était parfait.
Mordia.
Moi, je voudrais revenir sur la question de la langue, parce que je pense que tu as tout à fait raison. Il y a une chose qui est quand même très frappante et qui, moi, m'horripile et me fait sauter au plafond à chaque fois, c'est de voir à quel point une des grandes réussites du néolibéralisme est d'avoir imposé son langage à tous. Quand on entend des responsables syndicaux accepter d'être désignés comme partenaires sociaux, on se dit qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. De la même façon, on les entend parler de coût du travail, de charges sociales, etc. C'est évidemment insupportable. Et je suis absolument convaincu d'une chose, c'est que s'il doit y avoir une révolte, la première chose à faire, c'est d'inventer la langue de sa révolte. Appeler les choses par leur nom, dire que le coût du travail, c'est très précisément les salaires et les cotisations sociales, et que si on veut baisser le coût du travail, eh bien, il faut que le gouvernement socialiste qui est en place ait le courage de dire « nous allons faire baisser les salaires et nous allons supprimer les cotisations sociales ». Et moi, je crois que le retournement de la langue par l'alexandrin et par, justement, cette chose absolument délicieuse, délicate, qui appartient à une tout autre monde, c'est une arme extrêmement efficace pour faire comprendre aux uns et aux autres non seulement ce qui est dit à l'intérieur, mais comprendre comment la langue n'est pas indifférente et qu'il faut absolument inventer une autre langue et en tout cas, en premier, se déprendre de ce vocabulaire qui nous est imposé comme une langue commune et qui est évidemment une arme très puissante de tous les porte-paroles du néolibéralisme.
Monsieur, votre hauteur, il nous faut un tableau. C'est toute la question de l'aléa brownien. C'était notre hypothèse. Nous la comprenons bien. La loi de Gauss permet aisément ces calculs. Mais un petit problème nous laisse ridicules. Le monde est nombre gaussien.
Alors, les rôles féminins.
La pièce de Frédéric, au départ, n'a pas de rôle féminin, parce que ce sont des archétypes. Et
là,
donc...
t'es démasqué, là.
Machiste en lui.
Voilà, donc, parce que Frédéric déteste les femmes et n'aime que les hommes, et donc il n'y a que...
c'est pas grave.
mais baraquer plutôt.
Les camionneurs, les... voilà.
Et
donc... Donc, comme ce sont des archétypes, on peut s'en emparer, et je me suis emparé de deux archétypes, l'un avec Christine Murillo pour faire La Fondée de pouvoir, qui est une actrice que j'aime beaucoup, avec qui j'ai très souvent tourné, que vraiment je trouve, et comme personne et comme actrice, tout à fait exceptionnelle. Et Odile Conseil pour jouer le rôle de la grande journaliste, puisque au-delà de son talent d'actrice, qu'elle a déjà exercé dans deux de mes films, elle est aussi une journaliste. Et donc ça tombait bien, il y avait un rôle de grande journaliste. Et bien c'est tombé sur elle.
Évidemment, c'est une journaliste positive, sympathique, objective.
Dil.
C'est une grande journaliste, c'est un rôle de composition pour moi, parce que dans, je tiens à préciser que dans la vie, je suis une modeste journaliste, donc c'était vraiment un rôle. Et ça, elle fait partie de ces journalistes qui font l'opinion, qui font des éditos, et qui sont du côté du manche, du bon côté du manche.
La volaille qui fait l'opinion.
Si l'on veut.
Comment vous avez travaillé les uns et les autres? Je crois savoir que le tournage a été très court, hein, et il vous a laissé peu de temps, le Mordillat, pour bosser.
Bah, il nous a laissé du temps pour apprendre nos rôles, puisqu'on les a appris quand même.
Oui, mais ça, ça ne lui coûte rien, c'est après.
Après, le tournage s'est déroulé sur 3 semaines, comme il faut. Mais moi, je connais ma réplique par cœur. Je peux vous la refaire en rap, en tout ce que vous voulez. Hein, si vous voulez. Monsieur le financier, il me vient une idée. Ne vous inquiétez pas, je peux tout rattraper. Pour être de la presse, je reste responsable. Je suis vraiment moderne. J'aime le raisonnable. Mais je voudrais dire une chose quand même. La presse est intraitable. Elle est incorruptible.
Ouais, bien sûr.
C'est ma plus belle
Pour être de la presse, je reste responsable. Je suis vraiment moderne. J'aime le raisonnable. La finance est en soi une chose très belle. Vous êtes la victime de forfaits criminels. Le système est parfait, sauf quelques malfaisants. Il faut les écarter. Il faut l'enfermement. Ainsi est rétablie l'harmonie virginale, union du Saint-Marché et du bon capital. Ne craignez pas la presse, alertez les médias. Qu'on sache bien, partout, quel était le coup bas, quelle ignoble traîtrise vous a fait tant de mal, mais que la banque sait résister aux cabales. J'écrirai un article, demain, dans mon journal. La thèse en sera forte, le propos radical. J'y dirai en substance que le marché est roi, que la banque le sert, que son crédit fait foi, et que l'harmonie règne, à quelques fâcheux près.
Sans une presse libre, le monde disparaît. Vous nous sauvez, madame. Nous et les actionnaires. Je lis souvent votre chronique hebdomadaire. La banque vous sait gré de rester aussi libre et si bien disposée.
La presse est intraitable. Elle est incorruptible. Gageons que ce lampiste fera un bon fusible.
Là, on est dans cette cafétéria au magique cinéma de Bobigny. Hein. Il y a une journée Mordillat, un hommage à Gérard Mordillat, c'est ça. Ils sont en train de sculpter un énorme monument à Gérard Mordillat, oui, en véritable béton.
Oui, mais parce que pour moi, je suis un cinéaste et un écrivain posthume. Parce que pour l'enthume, c'est foutu. Mais pour le posthume, je suis vraiment quelqu'un de très, très important. Et je crois que cette journée marque d'une pierre blanche le début de ma gloire posthume.
Alors, pendant qu'on est en train d'enregistrer, le public est en train de regarder votre film, là, tous, et en train de se marrer de temps en temps, quand même.
On espère, oui. C'est-à-dire que si on n'était pas là répondre à tes questions, on serait dans la
salle. Ouais, voilà. Vous seriez heureux en train de rigoler avec le public.
Tourner à la machine-outil, hein, à commande numérique, on s'en bat.
Moi, je l'ai vu en public à Aix-en-Provence. Et c'est vrai que les gens rient. Et tant mieux. Mais pas seulement ça, j'ai été quand même assez étonné de voir que la première réaction était sur le film lui-même. Et ça, c'était vraiment très bien. C'est-à-dire sur le jeu des acteurs, sur la mise en scène, etc. Et puis ensuite venait la discussion économique et politique. Mais d'abord, le film. Et ça, c'est là que je trouve que c'est vraiment une arme et une arme puissante. Leur premier sentiment que j'ai entendu exprimer, notamment à Aix-en-Provence, le mot qui revenait tout le temps, c'était « jouissif ». Et puis ensuite, c'était jouissif d'avoir vu les acteurs qui sont ce que l'on a dit, d'avoir vu la mise en scène, etc. Et puis c'était surtout jouissif, soudain, d'y comprendre quelque chose à l'économie. Et de se dire que, voilà, puisqu'on peut comprendre, on peut transformer les choses. Et ça, moi, j'étais tout à fait d'accord.
Tu continues d'écrire pour le théâtre ?
Ah non, je crois que ça restera un apax dans ma...
Un apax. Faut tout recommencer.
On ne se refait pas.
Merci à tous. Merci à tous, Mordillat, Gérard, les comédiens, François Morel, Élie Truffaut, Frédéric Lordon et toute l'équipe du film Le Grand retournement donc qui sort dans les salles à partir d'après-demain, donc mercredi. Merci aussi à Odile Conseil, à Antoine Chao qui faisait le reportage. Merci à Dominique Bax, à l'équipe du Magic Cinéma de Bobigny. Merci aussi aux repères de la basse, j'y suis, d'Aix et de Marseille qui sont pour beaucoup dans le lancement de ce film. Merci à tous. Vous pouvez encore voir la version théâtre de la pièce de Frédéric Lordon, mise en scène par Judith Bernard, au théâtre Montmartre-Galabru, dans le 18e arrondissement, à Paris. Les deux dernières représentations ont lieu le mercredi 23 et 30 janvier, 21h30. À ne pas manquer. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, également sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a aussi la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno. C'est Lucia Kuhn et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch. Et Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Non mais tu le crois ça? Hier 23h, retour de week-end, en panne au milieu de nulle part.
Attends, ne me dis rien là. La dépanneuse te dépose sur le parking du garage le plus miteux du patelin, forcément fermé. Bref, t'es piéton et ça va te coûter un bras.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. En cas de panne, nous vous venons en aide et nous pouvons même prendre en charge les réparations. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, assurément humain.
Et jusqu'au 31 janvier, la GMF vous offre les deux premiers mois de votre assurance auto. Voir conditions en agence ou sur gmf.fr.
France Inter présente La Nuit tombe, de Guillaume Vincent, jusqu'au 2 février au Théâtre des Bouffes du Nord, en collaboration avec La Colline, Théâtre National. Au milieu d'une chambre d'hôtel somptueuse et décatie, plusieurs histoires se croisent et se mélangent dans une atmosphère fantastique, où la réalité se dissout dans le rêve, le fantasme ou le souvenir. Guillaume Vincent ravive l'univers d'un conte pour enfants, jouant avec nos terreurs et nos désirs inconscients. Retrouvez La Nuit tombe dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Culture lance France Culture Forum, l'année vue par la philo. Samedi 26 janvier de 9h à 18h15 dans le Grand Amphi de la Sorbonne à Paris. 5 tables rondes avec notamment Daniel Cohen, Emmanuel Todd, Bernard Stiegler, Cynthia Fleury, Dominique Schnapper, Alain Renaud et en clôture une leçon prononcée par Alain Badiou. Entrée libre et gratuite, tout savoir, tout écouter, franceculture.fr. France Culture, une radio de Radio France.
À demain, 15h pour Là-bas, si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Les islamistes qui ont attaqué le site gazier d'Inamenas la semaine dernière venaient tous du nord Mali. Le Premier ministre algérien a livré aujourd'hui quelques détails sur l'opération menée par l'armée algérienne, mais aussi le bilan des victimes. Alors côté ravisseur, c'était des Algériens, des Canadiens, des Égyptiens, des Tunisiens, des Maliens et des Mauritaniens. Ils étaient au nombre de 32. Ils étaient tous membres du groupe de Mokhtar Belmokhtar, l'un des fondateurs d'ACMI, mais ils étaient dirigés pour cette opération par un Algérien, Amin Ben Chenab, qui a été tué pendant l'assaut. 29 des ravisseurs ont en tout été tués, 3 autres arrêtés vivants. Du côté des otages, 37 étrangers de 8 nationalités ont été tués, plus un Algérien. On n'a pas plus de détails sur la nationalité de ces étrangers. Ce sont en fait les pays touchés qui ont confirmé leur mort. Il y a donc un Français, un Américain, des Roumains, des Britanniques, des Philippins et des Japonais. Nombreux ont été tués d'une balle dans la tête. Il s'agit d'un bilan provisoire, a indiqué Abdelmalek Selal. 5 étrangers sont toujours portés disparus. Au Mali voisin, les forces françaises et maliennes ont repris le contrôle aujourd'hui des villes de Diabali et de Douenza au nord de Bamako. Les combattants islamistes ont disparu, selon le ministre français de la Défense. Dans un communiqué, Jean-Yves Le Drian a rappelé le but de la mission française, restaurer la souveraineté du Mali et conjurer le risque de constitution d'un sanctuaire terroriste au cœur de l'Afrique. Selon des habitants sur place à Diabali, des djihadistes se sont rasés la barbe et ont troqué leurs boubous traditionnels pour des jeans afin de se fondre dans la population. Alors question maintenant, où sont les autres? Eh bien d'après les habitants de Tombouctou, cette fois plus au nord, de nombreux pick-ups sont entrés dans la ville depuis samedi. L'Érythrée, victime vraisemblablement d'un coup d'État aujourd'hui, des tanks de l'armée encerclent actuellement le ministère de l'Information à Asmara. Le bâtiment a été pris d'assaut ce matin par 200 militaires, ce sont les seuls détails dont on dispose pour l'instant. En France, 14 départements de la région parisienne sont toujours cet après-midi sous vigilance orange pour la neige et le verglas, car il neige à nouveau sur l'Île-de-France, mais les nouveaux flocons ne perturbent pas trop les transports. D'ailleurs, Air France prévoit un retour à la normale pour ses avions pour demain. Hors de la région parisienne, les départements de l'Eure-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Mayenne, de l'Orne et de la Sarthe sont eux aussi placés sous vigilance orange cet après-midi. Météo France prévoit la fin de l'épisode neigeux pour ce soir, 22h. Il sera candidat à sa réélection l'an prochain. Sans surprise, Pierre Cohen, le maire PS de Toulouse, a annoncé aujourd'hui sa candidature pour les municipales. Âgé de 62 ans, il est le maire de la 4e ville de France depuis 2008. Enfin, plus de 4,5 millions de dollars. La Batmobile, célèbre voiture de la série télévisée du même nom Batman, a été vendue aux enchères. L'automobile futuriste datait quand même de 1966. Elle avait été réalisée à partir d'une Lincoln Futura de 55, acquise pour 1 dollar dans une case par Georges Barris, un créateur de voitures de cinéma. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Ce soir sur France Inter,
les révélations des Victoires de la Musique 2013
en live.
Une soirée exceptionnelle en partenariat avec Deezer,
en direct du studio 105 de la Maison de la Radio. Alexandre Hérault.
J'espère que vous mesurez l'importance de cette soirée pour les artistes nominés.
Aurélie Sfert.
Oui, Alexandre.
Alors, dans la catégorie révélation, nous avons
Si-tou-si,
Barbara Carlotti,
Irma,
Rover.
Ah, lui, c'est mon préféré.
On ne vous demande pas votre avis, le but n'est pas de vous prononcer ce soir. Nous avons aussi Boulevard Désert et Tal.
Les révélations des Victoires de la Musique 2013.
Une soirée de concerts à suivre sur France Inter ce soir à partir de 21h.
Et en vidéo sur franceinter.fr. Et Deezer.com. France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillard, on se retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. J'espère que vous êtes prudents, faites attention à ne pas glisser, ne pas tomber, pas de jambes cassées, pas de chevilles foulées si possible, d'accident de voiture encore moins, bien sûr. Alors, révélation des Victoires de la Musique, vous avez entendu à l'instant. Eh bien, pour la chanson, oui, c'est très important, mais nous avons aussi nos révélations classiques et vous pourrez entendre dans cette même émission, à partir de mercredi, les jeunes qui ont concouru. C'était à l'Hôtel des Invalides il y a quelques jours, donc les instrumentistes mercredi et jeudi. Les chanteurs, vous pourrez commencer à juger et à voter à partir de ce moment-là. Je rappelle que les Victoires de la Musique Classique, ce sera à Bordeaux, en direct évidemment sur France 3, le 25 février prochain. Et dans moins d'une heure, on peut, si on veut, assister à la cérémonie d'investiture de Barack Obama aux États-Unis, donc pour un deuxième mandat. Alors pourquoi ne pas écouter, entendre en tout cas, ou écouter, reste encore mieux, la bannière étoilée, c'est l'hymne des États-Unis d'Amérique. Alors ça a été écrit par Francis Scott Key, le 14 septembre 1814, durant la guerre contre l'Angleterre. Et curieusement, la musique serait l'œuvre d'un compositeur anglais, John Stafford Smith. La bannière étoilée, l'hymne des États-Unis d'Amérique, donc c'est un poème qui rend hommage au drapeau étoilé, à la résistance contre les ennemis bien sûr, et puis c'est un hommage à la liberté. Nous avons entendu la musique de la garde républicaine et le chœur de l'armée française quand même, on reste bien de chez nous. Mais enfin, on sait apprécier les hymnes des autres. La musique américaine, elle existe, contrairement à ce que certaines méchantes langues ont dit. Et voici par exemple Louis Moreau Gottschalk, 1829-1869, ça fait pas très très long, 40 ans de vie seulement. Il est né à la Nouvelle-Orléans, son père était un homme d'affaires très érudit qui aimait la musique, sa mère faisait partie de la noblesse coloniale française. Et il a eu un talent de pianiste extraordinaire, il a été vraiment considéré comme un nouveau Chopin, et Berlioz a dit de lui, Gottschalk fait partie du très petit nombre de ceux qui possèdent tous les différents éléments d'un pianiste achevé, toutes les facultés qui l'entourent d'un prestige irrésistible et lui confèrent un pouvoir souverain, il est un musicien accompli, bref, voilà. Eh bien, il jouait du piano, pas du banjo, et pourtant il a écrit le banjo. Fantaisie grotesque.